Ok, alors rebonjour et bonjour. Aujourd'hui, on va faire et demain et après-demain, le plein pouvoir des mots, savoir influencer et persuader. Je sais que parfois le mot influencer est souvent interprété comme manipuler et j'espère que plus tôt ou plus tard, quelqu'un va m'accrocher à ce sujet et donc on va pouvoir en parler. Mais pour l'instant, j'aimerais vous parler un petit peu de... Allô? Ça, c'est la loi de Murphy. Vous connaissez la loi de Murphy? Oui, voilà. Alors, mais nous, on blâme les Irlandais. C'est une loi irlandaise. Voilà. Alors, j'ai été connue un peu dans le monde pour ce livre « Words that change minds », le plein pouvoir des mots. Et maintenant, j'ai de la chance, c'est en allemand, c'est en français et ça vient de sortir en italien. Et la fin d'année, ce sera en russe aussi. Donc, c'est un livre qui a fait un peu ma carrière. Alors, je suis contente de l'avoir déjà écrit. Vous savez, il y a des auteurs qui aiment écrire. Il y a des auteurs qui aiment avoir écrit. Je suis dans la deuxième classe d'auteurs. Il y a encore une troisième classe d'auteurs, c'est des auteurs qui sont contents d'avoir été publiés. Je pense que je suis dans la troisième classe aussi. Bon. Et c'est justement sur les questions de qu'est-ce qui fait qu'une personne ou un groupe de personnes va être motivé ou pas motivé. Et d'ailleurs, c'est un peu le thème de ce que je fais. Et récemment, on m'a envoyé l'évidence d'une autre utilisation de mon livre. Alors, si jamais vous trouvez que le thème ne vous intéresse pas, c'est un logement pour chat qui dort. Voyez. Alors, aussi, nous allons parler des gens sceptiques, parce que parfois, dans la communication, on est très enthousiasmé par quelque chose, et là, on fait face à des sceptiques. Alors là, je vous montre là, bienvenue à la société des sceptiques. Alors, la personne à la gauche, il dit, je ne crois pas que nous nous sommes connus. Et l'autre, il dit, je ne crois pas que vous ne croyez pas que nous nous sommes connus. Alors, voici la société nationale des gens sceptiques. Eh bien... Là, je l'ai mis en anglais, excusez-moi. Alors, je travaille souvent dans le domaine du cure miracle. Je ne sais pas si ça vous arrive en tant que consultant en entreprise. Vous débarquez quelque part et on vous dit, tenez, nous avons eu ce problème depuis 20 ans. Et lundi soir, à 19h, vous pouvez en faire quelque chose, n'est-ce pas? Donc, il y a toujours la recherche éternelle du cure miracle. Je peux faire ça face à ça tous les jours. Ou j'appelle ça, c'est des tâches où on doit... sortir un lapin d'un chapeau. Donc, problème depuis 20 ans, on va la régler en 2 heures. Alors, normalement, je leur dis, bon, une autre façon de poser la question sur est-ce qu'il y a vraiment un cure miracle pour tous les problèmes de communication du monde. Une autre façon de poser cette question, est-ce qu'il y a une mère des fées? Mais la réponse, elle est oui. Et j'aimerais vous dire qu'à la fin de chaque journée, si vous avez des vœux, elle pourrait vous donner suite à tous vos vœux. Alors, réfléchissez maintenant, d'accord? Bon, on va rentrer tout de suite dans la théorie, d'accord? Parce que j'ai très peu de tolérance pour la théorie. J'aimerais autant qu'on s'en fait avec et qu'on passe à autre chose. Vous êtes d'accord? Alors, pour influencer, c'est-à-dire pour avoir de l'influence avec un autre être humain, avec un groupe de personnes, qu'est-ce qu'il faut faire? Afin d'emmener des gens quelque part, il vaut mieux d'abord aller les rencontrer là où ils habitent, au lieu de faire semblant qu'ils aient déjà fait le voyage avec vous. Je donne comme exemple. Vous voulez que quelqu'un soit ici, dans ses pensées, dans ses croyances, dans sa façon de faire. Alors, il est là. La plupart des gens, sans réfléchir, vont parler comme si la personne a déjà fait le saut en croyance. On utilise les mêmes arguments qui nous ont motivés nous-mêmes. Alors là, on est surpris que l'autre ne fasse pas le saut pour nous joindre. Alors tout le cours, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire notre mieux pour comprendre où est-ce que la personne elle est actuellement dans ses croyances, sa façon de filtrer son monde intérieur et extérieur pour utiliser le langage qui est assorti à sa façon de vivre, pour l'emmener quelque part. Et au fur et à mesure, vous allez vous rendre compte de quels sont les schémas qui vous motivent vous-même et en quoi c'est pareil ou différent avec les autres. Nous n'allons pas aborder les comportements que vous ne connaissez pas déjà. C'est tout le comportement humain. Vous êtes déjà au courant de ça. Nous allons travailler d'une façon à reconnaître ces schémas linguistiques, ces schémas de comportement pour pouvoir mieux rencontrer du monde là où ils sont. D'accord? Tout ça, c'est basé sur le travail de Noam Chomsky, que vous connaissez peut-être à partir des études de PNL. Et lui, il a fait son thèse de doctorat sur la syntaxe transformationnelle, c'est-à-dire les processus qu'on utilise pour créer son propre modèle du monde, sa propre façon de vivre. Donc, comme vous savez, c'est la sélection, la distorsion et la généralisation. Les gens sélectionnent, du moins au niveau conscient, et aussi au niveau inconscient, les choses sur lesquelles on va porter attention. On est capable aussi de la créativité, et ça c'est la distorsion de ce qui est. Et la généralisation, c'est le processus le plus simple qu'utilise l'être humain pour apprendre. Il fait une chose, il fait la même chose deux fois, trois fois, et ensuite il pose une généralisation. Et ces schémas qu'on va voir de motivation sont basés sur le travail de Noam Chomsky. La sélection, la distorsion, la généralisation. Et nous allons utiliser un outil qui s'appelle the Language and Behavior Profile, un profil comportemental, linguistique et comportemental, développé par un monsieur américain qui s'appelle Roger Bailey. Roger avait travaillé avec Leslie Cameron Bandler pendant des années 80. Et c'est Leslie qui a mis au point ce qu'on appelle en PNL les métaprogrammes. Ce sont des filtres qu'utilisent les personnes pour laisser entrer un certain type d'information ou pour laisser sortir un certain type d'information de leur expérience personnelle. Et dans le temps, quand Leslie avait étalé les métaprogrammes, elle avait nommé 60 métaprogrammes. Vous pouvez maintenant lire des livres, il me semble, de Michael Hall, où il en mentionne non seulement les 60, mais il met le Myers-Briggs là-dedans et bien d'autres choses aussi. Et tout est là. Mais ce que Roger a dit, il dit, mais voyons, j'ai pas vraiment la patience pour savoir 60 choses différentes à propos d'une autre personne pour pouvoir travailler avec elle. Vous êtes d'accord? Moi, là, c'est mon schéma de base, c'est que je veux pas avoir trop d'informations. C'est mon préjugé. Alors, quand j'ai su son modèle, j'ai dit, bon, c'est pratique. Parce que lui a divisé ça en 14 catégories de profils. Et il a divisé ça en deux types. Il a parlé des caractéristiques de motivation et des caractéristiques de fonctionnement interne, ce qu'on appelle les caractéristiques de travail. Donc, il a réduit le travail de Leslie en quelque chose de plus, à mon avis, c'est mon biais, plus digestable. Vous voyez, vous entendez toujours les opinions qui sortent sur le côté. Je ne vais pas vous cacher mes biais personnels. Mais s'il s'agit déjà de la recherche scientifique, je vous avertirai, d'accord? Si jamais je dis quelque chose basé sur la réalité comme telle, qui peut arriver, qui on ne sait pas, je vous dirai à l'avance. Et donc, les profils là, ou les métaprogrammes, ce sont des filtres. C'est pas la réalité, c'est la manière que la personne fait pour percevoir d'abord et ensuite interpréter sa réalité. Donc c'est des perceptions et des interprétations. Les filtres déterminent quelles informations une personne est capable de faire entrer en sa personne ou la manière qu'elle va communiquer vers l'extérieur, vers le monde extérieur. Ces filtres aussi changent par contexte. Et là, c'est le message le plus important de tout notre temps ensemble. Nous allons travailler avec un profil psycholinguistique, mais ce n'est pas un profil de personnalité. C'est un profil de comportement. Et comme vous savez bien dans votre vie, par exemple, votre comportement est différent le matin que le soir, en vacances, en achetant en auto. Tout ça, en faisant les courses au supermarché, vous avez un comportement différent que quand vous jouez aux cartes avec vos enfants. Donc, c'est un profil de comportement. Alors, nous allons découvrir nos propres profils, nos propres schémas. Et parfois, vous allez avoir la question, mais est-ce que je fais toujours ça? Ben, la réponse, c'est, je sais pas. Aujourd'hui, je fais partie de certain nombre d'équipes de recherche du marché où, justement, on cherche à savoir quels sont les schémas qu'utilisent les différents clients pour les différents produits et services. Par exemple, les gens, nous savons maintenant par la recherche scientifique, là je vous avais averti là,
oui.
C'est une recherche scientifique, que les gens qui achètent une marque de papier toilette ont des schémas différents des gens qui achètent une autre marque de papier toilette. Ça se peut que ça vous dit rien de savoir ça, mais les gens qui produisent le papier toilette sont hyper intéressés par ça. Et donc, c'est le comportement et pas la personnalité. C'est très, très, très important. Parce que les êtres humains, on est plus flexibles. On fait des choses différemment dans des endroits différents. Et j'espère pouvoir vous donner plein d'exemples dans les domaines qui vous intéressent de comment est-ce que ça change, comment tu peux prédire le comportement et donc de l'influencer. On va voir d'abord les déclencheurs de motivation. Qu'est-ce qui doit être là pour qu'une personne soit motivée? Et dans le cas contraire, comment ça démotive une personne? C'est très important, par exemple, dans le recrutement. Il vaut mieux avoir quelqu'un qui est motivé par les tâches qu'il a à faire. Et je sais que Françoise, tu t'en sers beaucoup. Et aussi, dans le recrutement, ça vous aide à écrire les annonces ou les publicités qui appellent uniquement les bonnes personnes. Et que les gens qui n'ont pas une bonne, ce qu'on dit un bon fit en anglais, qui ne sont pas assortis au job, ne vont pas se postuler. Déjà, c'est un grand saut par en avant parce qu'il y a moins de résumés à regarder, par exemple. C'est utilisé aussi dans la vente. Qu'est-ce qui va faire que quelqu'un va acheter quelque chose ou qui sera intéressé par un produit ou par un service? Moi, je l'utilise aussi pour préparer des gens à la négociation. Négociation syndicale, négociation entre clients, fournisseurs, etc. Donc, comment parler le langage de son interlocuteur pour justement avoir un accord plus facile et moins de disputes. Et je pourrais vous donner quelques exemples de ça. Dans le développement personnel et développement de carrière, c'est très important aussi de se connaître. Qu'est-ce qui va m'intéresser? Ce n'est pas par rapport à une fonction, mais dans une façon de réfléchir et d'agir. Donc, si vous êtes là pour mieux vous connaître, vous êtes vraiment au bon endroit. Alors, bon. Alors, je m'arrête là pour un instant. J'aimerais vous poser une question. J'aimerais un peu savoir d'abord quels sont les métiers que vous avez, juste pour que je puisse vous donner des applications que moi, je connais déjà de votre métier, si je connais quelque chose de ce que vous faites. Et après, j'aimerais vous poser une autre question sur les applications qui vous intéressent. Mais d'abord, les métiers. Qu'est-ce que vous faites comme métier, par exemple, Bernadette?
Bernadette, consultant formateur en formation de formateur.
En formation de formateur, ok. Est-ce qu'il y a d'autres consultants formateurs ici qui travaillent dans les entreprises? Il y a Karim, toi? Toi, tu es spécialisé dans...
Moi, je travaille sur plusieurs axes, donc en entreprise. Je travaille également, je fais de l'enseignement, j'enseigne également la PNL. Et puis, je fais aussi de la consultation, donc de coaching et de psychothérapie.
D'accord. Coaching, psychothérapie et formation. Quel est le domaine de formation dans lequel tu t'es spécialisé?
La PNL.
La PNL, ok. Appliqué à quelque chose ou la PNL pure?
Dans la PNL pure.
Ok, super. Et les autres, il y a d'autres consultants formateurs, oui?
Oui, moi, je suis consultante et ma spécialisation, c'est l'emploi.
L'emploi.
Donc, le gros de mon travail, c'est de... travailler avec des gens qui m'envoient la NPE.
D'accord.
Je travaille sur les bilans de compétences, sur les projets professionnels.
Ah, super. Tu fais des bilans de compétences avec des clients. Ok.
Et la recherche d'emploi, donc aussi le contact avec les entreprises et les recrutements.
Ah, super. Donc, il y a plein d'applications dans tes domaines de ce qu'on va faire. D'autres consultants, formateurs, oui?
Moi, je suis coach en entreprise individuelle et d'équipe.
Ok.
Aussi une casquette de thérapeute.
Ok, thérapeute, et tu fais du team building dans les équipes ou coach d'équipe, coaching, c'est ça? Coaching. Ok. Christine?
Oui, moi je suis coach et je développe une activité de consultant. Alors de deux manières, j'anime des ateliers, je me suis spécialisée dans la gestion du temps, sur l'estime de soi. J'ai commencé un petit peu des ateliers dans le domaine de la com où j'utilise la programmation neurolinguistique.
Super.
Et là, je suis en train de développer, j'ai un contrat de team building, de cohésion d'équipe qui me tient énormément à cœur.
Mais ça, c'est un domaine de team building qui est très très fort pour le profil lab parce que ce que je fais avec les équipes, par exemple, c'est que je fais le profil des individus et je le mets sur Excel. Et là, on regarde le style de l'équipe. Les forces et les faiblesses par rapport aux tâches et responsabilités. C'est très, très puissant.
Et j'ai une petite idée, moi, ce que j'ai envie de développer au travers du team building, c'est par l'intermédiaire de l'action et par l'intermédiaire du jeu.
Ah, ça paraît intéressant, le jeu et l'action. On va justement décodifier les équipes pour qui ça va marcher et les équipes pour qui ça ne va pas combler à leurs besoins. Ça s'intéresse? parce que ça dépend du profil de l'équipe.
Oui, ça m'intéresse énormément.
Et oui, ça vous intéresse aussi. D'autres formateurs consultants, formatrices consultantes, non? Des coachs, il me semble qu'il y a des coachs ici.
Oui.
Je peux voir qui fait du coaching, il y en a plusieurs. Mas ou menos, plus ou moins. C'est-à-dire, tu coaches en formation. Mais on peut te compter quand même. Bon, voyons. Tu comptes. Ok, il dit d'accord. Bon. Alors, les autres métiers, que faites-vous? Vas-y.
Oui. Oui. Je suis diététicienne donc, et j'ai une formation de naturopathie et nutrithérapie.
Ah, super.
Donc, en fait, je travaille en cabinet libéral uniquement. C'est vrai que ça m'intéresserait bien d'avoir une démarche de formation, d'information auprès des gens. Et voilà, donc ça m'a paru, c'est la première fois. Là, vraiment, j'ai aucune notion en PNL. Donc voilà, je vais découvrir tout ça, mais ça m'a paru indispensable.
Oui, d'accord. Et justement, quel est le langage qu'il faut tenir avec chacun de tes clients pour savoir que le message va rentrer? Et si on prend à sa manière de le faire, on voit très bien qu'il y a des gens pour qui ça marche et il y en a d'autres pour qui, bon, ça n'a aucun effet. Et en plus, comment utiliser le langage pour attirer des clients qui auront plus de chances de bénéficier de tes conseils? Parce que c'est pas la peine d'attirer des clients qui vont pas bénéficier. Parce que ça te donne une mauvaise réputation. Voilà, c'est clair, hein? Ok, super. Y a-t-il d'autres personnes qui n'ont pas encore parlé? Oui, vas-y.
Alors, moi, je travaille dans une entreprise d'insertion professionnelle pour adultes. Actuellement, je m'occupe de la relation avec les entreprises et en même temps, je fais la coordination entre les équipes d'accompagnateurs à l'emploi et la relation à l'emploi. Donc, je suis assez proche.
D'accord. Oui, oui, c'est proche. D'accord. Est-ce qu'il y en a d'autres qui travaillent en individuel avec les personnes?
Oui, qu'est-ce que...
Infirmière de comment?
Je suis infirmière, je travaille en libéral.
Ok, donc tu vas chez les gens, c'est ça. Ok, super. D'autres infirmières dans la santé?
Non, traitement des cancers.
Traitement des cancers? Tu as quel rôle?
En tant que manipulatrice.
Ok.
Et je suis en formation de psychothérapeute et je fais aussi une formation en psycho-oncologie.
En psycho-oncologie, ok, d'accord. Très bien. Et okay. Tamar?
Je suis gérontologue. Je suis spécialisée dans la dernière étape de la vie, ce qu'on appelle Alzheimer, ceux qui ont perdu la tête. Je pratique une méthode approche holistique qui s'appelle validation. Et je suis un dernier parcours de teacher. Voilà, je suis formatrice de l'équipe de long séjour, plutôt.
D'accord. Et les autres qui n'ont pas... Merci. Les autres qui n'ont pas parlé, qui n'ont pas encore parlé.
Je forme à la PNL et au coaching. Et actuellement, je suis ingénieur en informatique.
Ingénieur en informatique, mais écoute, c'est pas ta faute, hein. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui peut le faire, n'est-ce pas? Je suis d'une famille d'ingénieurs. Alors, mon frère mineur est chef de département à l'université en génie informatique. Alors, j'en ai de l'expérience. Moi, je suis taquine. Et j'ai plein de blagues sur les ingénieurs. Voilà. Plein de blagues des ingénieurs. T'es ingénieur, toi aussi?
Je n'ai pas sur les Québécois.
Ah oui. Faut en faire. Et des Québécois ont plein de blagues sur les Anglais. Ça, c'est moi. Des Anglais.
Oui.
Oui. Chacun a son oufi. Voilà. OK. Et des autres?
Alors, moi, je suis dirigeante d'un établissement de soins de suite et de réadaptation.
Un établissement comment?
De santé.
De santé. OK.
Et je suis venue là parce qu'on m'a confié une deuxième direction d'un établissement beaucoup plus important. C'est bien que ça me... C'est plus du tout la même manière pour moi de manager.
Ah oui.
Une culture tout à fait différente et je me trouve devant des situations où je sens que j'ai besoin.
Ah d'accord. Donc tu diriges un organisme plus grand et tu te rends compte qu'il y a des stratégies différentes à apprendre. Ok. Et vous?
Moi je dirige une société d'importation dans les ingrédients alimentaires. Donc j'ai une fonction surtout commerciale.
Commercial, ok.
Donc je dirige des gens, mais j'ai aussi une fonction commerciale.
Super, ok.
Je suis très heureuse de participer à ce stage.
Excellent.
Je travaille dans l'industrie pharmaceutique, je suis déléguée médicale, hospitalière, et je rencontre à ce titre des psychiatres, des psychologues,
C'est donc niveau professionnel et puis personnel.
Ah, d'accord. Je travaille beaucoup dans le monde pharmaceutique avec les équipes de marketing qui doivent, eux, créer des programmes de vente pour les représentants qui, eux, doivent normalement parler à des médecins, des psychiatres, etc. Et le problème, c'est que le profil du représentant n'est pas du tout le même profil que les médecins. Et donc, ce qu'on appelle ça, c'est les processus à deuxième ordre. Parce que on doit aider ces gens-là, les gens en marketing, à communiquer un programme par le biais des représentants qui n'ont pas du tout le même profil que l'utilisateur en fin de compte. Donc, c'est au deuxième ordre, on appelle ça. Et puis?
Et moi, je suis étudiante comportementaliste animalier.
Ah, d'accord, ok.
Donc, je crois que la PNL permet de mieux rentrer en contact avec le maître et puis
voilà.
Ça évite beaucoup d'abandon.
Super, ça évite plein de choses. Ouais. C'est bien. Et qui n'a pas encore parlé, c'est Michel?
Oui, donc moi je suis conseillère municipale, je suis en contact avec beaucoup de public et je fais des permanences en relation d'aide.
Ah, d'accord, ok. On se sert aussi de ce modèle dans le domaine de la politique, bien sûr, parce que si on veut réussir à ce que les gens soutiennent un candidat ou un autre candidat, il faut vraiment parler le langage motivant pour ces personnes-là dans ce contexte-là. Et même lorsque vous allez recevoir, par exemple, des gens en individuel au cabinet, par exemple, très important de comprendre la direction de leur pensée. Très important, pour pas faire de gaffe, surtout. Et les autres qui n'ont pas encore parlé, qui n'a pas encore parlé? Oui.
Moi, j'ai travaillé très longtemps en entreprise dans la communication interne et externe, dans une grosse boîte américaine, justement.
Laquelle? Je suis curieuse.
Et là, je fais une formation en coaching, team building, PNL.
Super.
Et je m'oriente vers l'accompagnement des personnes et des équipes. Et peut-être plus tard, un accompagnement plus thérapeutique, on va dire.
Okay.
Et justement, ça, tout à l'heure, tu as évoqué le fait de bien savoir faire la différence entre les publics et des méthodes qui soient plus adaptées à certains publics et pas à d'autres. Ça, c'est quelque chose qui m'intéresse.
Ouais.
Parce que je pense qu'effectivement, comme le disait Christine, il y a un aspect jeu ludique qui peut être peut-être très intéressant et très adapté à certains publics et peut-être moins à d'autres.
Donc, oui, ça, c'est quelque chose qui m'intéresse. Oui, tout à fait. Et oui, tout à fait. On va voir ça. Et même les auditoires les plus difficiles, comment vous allez faire pour justement communiquer avec eux? Mm-hmm. Les gens qui rejettent toutes les idées. Vous ne connaissez pas des gens comme ça?
Oui.
Eh bien, qu'est-ce qu'on en fait? Et ça, c'est ce que j'appelle le test du macho. On va voir ça. Voilà. Mm-hmm. Ils adorent ça au Mexique. On a traduit en espagnol, c'est la prueba del macho. Voilà. Bien. Alors, les autres, qui n'a pas parlé encore, c'est vous. Vas-y.
Moi, je fais de l'accompagnement de porteurs de projets de création d'entreprise.
Encore une fois.
L'accompagnement des porteurs de projets de création d'entreprise. C'est-à-dire les gens qui veulent monter une société.
Ah oui, d'accord. OK.
On est avant la création et c'est une période qui peut durer de 2 ans, enfin de 1 à 2 ans.
Ah, super.
Donc, c'est l'accompagnement à la fois stratégique, financier et puis psychologique également.
Ah, super.
Voilà, tout type de profil, donc communication, faire preuve d'adaptabilité, etc.
Tu as une variété de responsabilités alors avec eux, financier, communication, ouais. Stratégique. Mm-hmm. Super.
Le coaching, quelque part, c'est une période de leur vie qui est quand même psychologiquement assez forte.
Ah oui, je comprends.
En termes d'application.
Excellent. Et Laurent?
Laurent, donc, moi je suis en formation actuellement en PNL, hypnose ericksonienne avec Marie-Paul et Gilles. Voilà, je me destine à la relation d'aide.
Ok, super, merci. Ça, c'est tout le monde qui s'est exprimé? Oui, plus ou moins? Bien, alors j'ai une autre question à vous poser, c'est que, à réfléchir, si vous aviez un moyen, je cherche mes feutres, si vous aviez un moyen de mieux prédire, un moyen pour mieux prédire, pour mieux comprendre et pour mieux influencer le comportement, qu'est-ce que vous aimeriez en faire avec cette compétence? pour prédire, pour comprendre et pour influencer. Qu'est-ce que vous aimeriez en faire? J'aimerais en prendre note parce que ce sont des applications que je veux m'assurer qu'on couvre dans notre cours. Alors, si vous aviez des moyens mieux que vous avez aujourd'hui pour prédire, pour comprendre et pour influencer le comportement, quelles sont les choses que vous voulez pouvoir faire avec ça?
Négocier.
Négocier quoi avec qui, par exemple?
Négocier des contrats.
Négocier des contrats, ok. Il y a d'autres personnes qui s'intéressent à la compétence de négociation? Oui. Ok, très bien. Autre chose?
Permettre aux gens d'aller mieux.
Permettre aux gens d'aller mieux, ok.
Ça peut leur dire, par exemple, de trouver un job, d'être plus en accord avec eux-mêmes, plus en accord avec les autres. Des équipes qui fonctionnent.
Plus fort, Françoise. Créer des équipes qui fonctionnent. Ça intéresse plusieurs personnes ici, il me semble. OK. Créer des équipes qui fonctionnent. OK. Faire fonctionner des équipes, oui. OK. OK. Encore? Autre chose? Motiver. Motivé, intéressé. Et le troisième, c'est quoi? Il y avait une chose avant ça, c'était
garder
la dynamique. Et l'enthousiasme. Et ensuite, il y avait.
Faciliter le passage.
Ok, je vais changer de page. Faciliter le passage à l'action. Très bien. Autre chose, si vous saviez prédire, comprendre et influencer le comportement, autre chose que ça vous tenterait de faire?
Obtenir un contrat.
Obtenir un?
Un contrat.
Un contrat, ok. Obtenir un contrat. Qui a dit autre chose? Il y avait...
Ça, c'est convaincre.
Convaincre.
Mise en place de partenariat.
Pouvez-vous me donner un petit peu plus d'informations? Convaincre... J'ai besoin des zones d'application qui vous intéressent. Alors, convaincre, pour moi, est un peu général, si je peux dire. Convaincre qui de faire... Qui a dit convaincre?
C'est moi qui ai dit convaincre.
Ouais, elle regrette maintenant.
Et je le regrette parce que comme je suis globale, donc si tu me demandes de...
Je vois. Ben, convaincre qui de faire quoi? Oui. Donc, on va remplir. S'il y a quelqu'un d'autre qui a envie de... Ben, vous avez envie de convaincre quelqu'un de quelque chose, des fois.
Oui.
Alors, ce serait qui? À propos de quoi?
Un partenaire d'associé.
Ouais. Un partenaire d'associé, ok.
Un patient.
Un associé, ok.
Un client.
Un employeur. Un employeur, ok.
Pour embaucher quelqu'un.
Un associé, oui. Etc. Donc, vous avez les idées en tête ou une image en tête de qui vous avez besoin de convaincre. L'électorat, par exemple, ou des gens qui votent, voilà, aussi. Autre chose que vous avez envie de faire?
Prévenir et résoudre les conflits.
Prévenir et résoudre des conflits. OK.
Moi, ce serait pour aider certains malades que j'ai pris en charge et leur famille à la maladie qui s'aggrave et à la mort.
Donc, aider les malades et leur famille. Tu peux me répéter?
Préparer à la maladie qui s'aggrave, en fait, et à la mort.
Bon, je m'ai marqué à se préparer comme ça. J'ai pas mal d'expérience là-dedans, ayant subi moi-même, j'ai subi moi-même un cancer et j'ai accompagné mon fils qui a aussi passé un an au chimio. Il va très bien, pour que vous sachiez. Hein, donc, j'ai passé pas mal de temps à avoir des interlocutions avec le système de santé. Ce qui a fait, je sais pas si vous lisez en anglais, mais j'ai un article sur mon site, c'est 10 tuyaux pour survivre le système de santé. d'après ce que j'ai compris, peut-être un jour je vais demander à quelqu'un de le traduire en français, mais c'est vraiment des tuyaux pour survivre le système de santé. Et j'imagine que c'est un peu ce que tu fais pour les familles, pour les préparer à ça, mais aussi préparer à la mort, etc.
Je comprends que de toute façon ça va aller vers ça et que
ouais. Pouvoir
réaliser.
Et d'ailleurs, ça me fait penser à.
Ça va mieux, ça glisse mieux, mais c'est pas évident.
Oui, et comment en parler justement. Et je ne sais pas si ça vous intéresse, mais il y a aussi des formules. Comment annoncer des mauvaises nouvelles tout en gardant un état de ressources, tout en gardant les gens dans un état plus positif. Alors, comment annoncer des mauvaises nouvelles, parce que ça arrive parfois qu'on doit le faire, et comment le faire de manière à garder les gens dans un bon état, émotionnel, physique, mental. Donc, si ça vous intéresse, je veux bien en parler. Autres applications qui vous viennent à l'esprit comme ça.
Elle avait dit rassurer.
Rassurer, oui. Il y a des formules pour rassurer, sûrement. Pardon ?
Établir la confiance.
J'entends très mal.
Établir la confiance.
Établir la confiance, ok. Établir la confiance. Très bien. Autre chose qui vient à l'esprit.
Au niveau individuel, enrichir le processus de décision.
Ok, à un niveau individuel, tu dis.
Plus efficace dans ses prises de décision.
Amener la personne, quelle est la.
C'est-à-dire individuellement, si je veux faire le choix entre plusieurs scénarios différents.
Ok.
Alors, lesquels sont les plus en adéquation avec mes valeurs profondes.
Ok. Alors, comment tu vas résumer ça? À un niveau individuel, pour soi-même, autrement dit, ok, tu...
Être plus efficace dans les décisions.
Ok, merci. Dans les décisions. Est-ce que ça intéresse les autres aussi, être plus efficace dans vos décisions? Et vous pouvez tourner ça vers les autres aussi dans votre coaching. Comment aider les gens à être plus efficaces eux aussi, non seulement nous autres-mêmes, mais les autres aussi. J'en prendrai une autre chose et après on va commencer à bosser un peu. On peut pas faire rien que jouer toute la vie, voyons.
Ok.
Vas-y, Christine.
Oui, mais ça, je pense que ça va t'intéresser parce que ça me passionne aussi, c'est influencer avec intégrité.
Influencer avec intégrité.
De Jenny Laborde, parce qu'en communication, quand on explique un petit peu programmation neurolinguistique et qu'on parle de langage d'influence, c'est quelque chose qui arrive très très rapidement. Ah oui, mais si on influence, on manipule.
Donc, qu'est-ce que tu veux au juste qu'on aborde là?
Moi, j'aimerais que tu me donnes ton point de vue sur influencer avec intégrité.
Ok, c'est bon. Est-ce qu'il y en a d'autres qui s'intéressent à ça aussi?
Moi, j'ai une idée.
Ok. Influencer avec intégrité. C'est bon. Alors.
Dédramatiser. Le processus.
Le processus, ok. Voilà. Tu sais, en termes de coaching, vous savez que il y a des schémas, des combinaisons de schémas indicateurs d'un état émotionnel de coincé. Et c'est caché derrière le langage. Et justement, comme tu dis, avant de pouvoir travailler avec quelqu'un, il faut déjà la sortir d'un état émotionnel négatif, parce que sinon elle peut pas faire un travail intéressant. Alors comment dédramatiser? Mais aussi, en fin de cours, comment est-ce que tu peux savoir que ton client ou ta cliente a fini le travail qu'elle a besoin de faire? Quels sont les schémas linguistiques indicateurs qu'elle a fini le travail qu'elle avait besoin de faire? Et en plus, les engagements qu'elle a fait à votre égard, est-ce qu'elle va vraiment les tenir ou pas les tenir? Ça vous intéresse de pouvoir prédire ça? Et c'est pas dans ce que la personne va vous dire. C'est pas là. Et justement, en parlant de ça, vous m'avez donné des applications qui vous intéressent et vous avez vu que j'ai quand même fait un grand effort de noter les mots exactement comme vous me les avez dit. Il y a une raison. C'est que non seulement on peut lire ça pour le contenu, savoir ce que vous voulez, mais ce qui m'intéresse aussi, c'est de qu'est-ce que vous m'avez révélé en termes de ce que vous voulez vraiment au-delà du contenu. Et à la fin de nos 3 jours, nous allons revenir là-dessus et vous allez pouvoir, comme moi, décodifier ce que vous avez dit vraiment. Ça vous intéresse savoir faire ça?
J'ai compris de suite.
Ah oui, c'est pour ça. Alors, c'est ce qu'on va faire. Je vous rassure, c'est pas difficile. Vous allez dire, mais c'est évident après. Tout ce qu'on ne sait pas faire, c'est la magie, n'est-ce pas? Tout ce qu'on sait faire, c'est évident. Vous avez remarqué ça?
Oui.
Ok, on fait notre premier exercice. Et pour ça, j'ai besoin que vous soyez d'accord pour travailler avec vos propres schémas. D'abord, pour les découvrir. Et deuxièmement, pour travailler avec. Vous êtes d'accord? C'est ok? On va prendre un contexte donné. Parce que on sait, comme je vous avais expliqué, c'est un profil de comportement et donc ça change suivant le contexte. Mais pour commencer, on va partir avec un seul contexte et on va appeler ce contexte le travail. Si vous êtes étudiant, votre contexte de travail, c'est les études, n'est-ce pas? Donc, ce que ça veut dire pour vous, c'est le contexte du travail. Définition d'un contexte, c'est où, quand, avec qui et une verbe. Où, quand, avec qui et une verbe. À chaque fois qu'une personne vous dit où, quand, avec qui, une verbe, elle est en train de vous définir un contexte. Par exemple, les mardis soirs, quand dans ma famille nous sommes en train de nous engueuler sur quel programme de télévision regarder, ça c'est un contexte.
J'ai pas compris. Où, quand, avec qui et après.
Et une verbe. Où, quand, avec qui et une verbe. Vous voyez, j'ai un sens très pratique côté nord-américain. C'est une verbe. Je trouve qu'on a plus de verbes en Amérique du Nord qu'on a en Europe, par exemple. On a plus de noms dans les sens, des concepts. Pas nécessairement des noms, mais des concepts. Alors, où, quand, avec qui et une verbe. Alors, l'exemple que je vous donne, c'est le mardi soir, lorsqu'on est en train de nous engueuler sur quel programme à la télévision qu'on va regarder. Vous voyez, c'est où, avec mes enfants. Et c'est pas moi qui gagne, je dois vous dire. Même avec toutes ces compétences-là. Est-ce que, par exemple, vous avez des enfants ou des petits-enfants que vous avez besoin d'avoir une meilleure influence? J'ai des mauvaises nouvelles et des bonnes nouvelles. On va voir ça plus tard, ok? Vous savez exactement oui. Ce que je suis en train de dire. Ok. Bueno. Et donc, je vais vous donner la première question. Je vous donne la méthodologie qu'on fait un petit peu. C'est qu'on va poser une question. Donc, vous allez choisir un partenaire, vous posez une question. La personne répond et vous écrivez de mot à mot ce qu'elle dit. Si vous faites des résumés, on ne va pas avoir les schémas de l'autre, on va avoir votre schéma de résumé. Donc, c'est très important de parler suffisamment lentement que l'autre puisse noter et pas donner des thèses de doctorat. Un peu moins d'informations que ça, mais un peu plus d'informations que peut-être normalement pour quelques-uns, d'accord? Je donne des indices de... Alors, la première question, c'est que recherchez-vous dans un travail? Donc, en d'autres termes, qu'est-ce qui est important pour toi dans un travail? Donc, je vais vous demander d'aller vous rencontrer quelqu'un, peut-être que vous ne connaissez pas encore, de vous présenter chacun à l'autre, de dire un petit peu votre background. Et ensuite, chacun à votre tour, sur un papier type brouillon, parce qu'on va faire plein d'exercices sur papier brouillon, je pourrais vous en donner si vous n'en avez pas, posez la question et écrivez toute la réponse qu'elle vous donne l'autre personne. Est-ce que les instructions sont bien claires? Donc, prenez à peu près 5 minutes chacun. Et on va revenir et décodifier ce que vous avez écrit. D'accord? Eh bien, vous venez de poser la question à votre partenaire. Que recherchez-vous? Que veux-tu dans ton travail? Qu'est-ce qui est important pour vous dans votre travail? Alors, j'aimerais commencer maintenant avec une série de questions impertinentes à vous poser. C'est mon métier, je sais ce que je fais. C'est que j'entre dans les endroits, je pose des questions impertinentes. Après ça, je dis ce que je pense. J'ai pas le meilleur job du monde, mais oui, c'est ce que je pense moi aussi. Eh bien, première question impertinente. Quand tu poses la question à quelqu'un, que veux-tu, ou qu'est-ce que tu recherches, ou bien qu'est-ce qui est important pour toi, quelle est la nature de l'information que la personne vous livre sur un plateau d'argent? Qu'est-ce qu'elle vous dit? Pas les mots, mais quel est le type d'information qu'elle vous dit?
La motivation.
La motivation, ok. Autre chose?
Plus un état désiré, des fois.
Parfois un état désiré.
Un état présent.
Ou un état présent, où elle est actuellement.
Dans ce qu'on aimerait faire, par moment, ce qu'on trouve aujourd'hui dans son
vie. D'accord. Donc, ce qui se passe aujourd'hui est quelque chose qu'elle désire, un état désiré. Ok. Quoi d'autre?
Il me semble que si tu me poses la question qu'est-ce qui est important dans ton travail, elle risque fort quand même de te donner des valeurs.
Des valeurs. Et qu'est-ce que c'est qu'une valeur, juste?
Alors, une valeur, c'est une, on va dire, c'est une notion philosophique qu'elle va rechercher. Alors, ça dépend si elle parle de soi ou si elle parle effectivement de son travail.
De son travail. Justement, en fait, la définition qu'on donne souvent au mot valeur, c'est ce qui est important. Mais c'est logique, n'est-ce pas? Alors, si tu demandes à quelqu'un qu'est-ce que tu veux ou qu'est-ce qui est important pour toi, elle va sortir quelque chose qui paraît être des valeurs. Mais non.
Non.
Non, c'est pas ce qu'elle fait. C'est proche, mais c'est pas ce qu'elle fait. Parce que le problème étant que l'être humain va entreposer ses valeurs dans ses mémoires, quelque part dans son corps. Donc, par exemple, si toi, tu me demandes à moi, Shirley, qu'est-ce qui est important pour toi dans ton travail? La première chose qui me sort depuis des années, c'est il faut que ça soit intéressant. Mais le mot intéressant, c'est pas mon valeur, c'est un mot. Le valeur, il est quoi? C'est mes mémoires de mon passé, des moments dans mon travail où j'ai nommé ça intéressant. Et les moments actuellement que j'ai dans mon travail que moi j'estime intéressant. Et des moments dans mon avenir où je peux prédire que ça va être intéressant. Et donc les gens ne vous donnent pas les valeurs exactement, bien qu'ils en parlent, ils vous donnent les étiquettes pour leurs valeurs. Les étiquettes verbales. Et nous, on appelle ça des critères. Parce que la personne ne peut pas vous donner l'expérience ou le souvenir ou le mémoire, elle peut vous donner que les mots pour ça. Alors, les critères, c'est dans votre dossier sur la page numéro 10. On va regarder ça plus en détail.
C'est un peu embêtant parce que c'est vrai que critères et valeurs en PNL, c'est un peu la même chose.
Oui, justement, et c'est pour ça que je propose une distinction. Okay. Il y a une distinction à faire. Merci. On peut mettre tout dans le même panier, si tu veux, mais je propose que c'est aussi utile de faire une distinction. Et en fait, ce que Roger Bailey a dit, les critères sont les points sensibles, les points chauds. En anglais, on dit les hot buttons, c'est-à-dire les boutons vraiment chauds. Je donne un exemple. Pensez à votre famille. Dans ta famille, par exemple, tout le monde connaît vos points sensibles négatifs, n'est-ce pas? Ils savent. Ils n'ont qu'à dire ça ou à faire ça, puis bof, il va y avoir une explosion. Vos enfants le savent, les uns par rapport aux autres, il faut tout simplement faire ça et baf, ça explose. Comment est-ce possible? Ce sont des mots. Ce n'est que des mots. Les points sensibles, ça veut dire que ce n'est qu'un critère que si c'est attaché à des émotions. Bien sûr, il y a des points sensibles de l'ordre négatif qui créent un état émotionnel négatif. Il y a des points sensibles de l'ordre positif qui créent une réaction positive. Et que, donc, les critères, définition des critères, ce sont les mots, des phrases qui incitent une réaction physique et émotionnelle. Parce que vous savez tous que l'émotion se manifeste par la physique. Parce qu'on vit dans les corps. Si on n'avait pas de corps, ce serait autrement, mais on a des corps. Et donc, les émotions se manifestent dans, quelque part, physiquement dans nos corps. C'est bien compréhensible? Alors, la question devient... Si tu poses la question à quelqu'un, mais qu'est-ce qui est important dans ton travail? Que recherches-tu dans ton travail? Comment tu distingues entre les choses qu'on est censé dire et les choses qui appartiennent vraiment à la personne? Ça vous paraît intéressant de savoir la différence?
Oui.
Parce que bon, je vais pour un entretien de recrutement, j'aurais tendance à dire ce qu'on attend de moi. Une fois, j'ai fait le profil d'un cadre dirigeant et j'ai dit, alors, qu'est-ce qui est important pour toi dans ton travail? Et là, il me ressort, je voudrais être une valeur ajoutée pour la société. Alors, après que je me suis enlevé le doigt de ma gorge, parce que ça a fait vomir presque, il faut quand même avoir un moyen de distinguer entre les choses qu'on est censé faire dans cet endroit-là et ce qui appartient. Alors, on va faire une petite expérience, d'accord? Vous allez rester avec le même partenaire parce que je vous ai pas demandé, mais je suppose que vous êtes capable de lire ce que vous avez écrit. C'est vrai? Plus ou moins? Oui, oui? OK, bon. C'est pour ça qu'on change pas de partenaire. Donc, vous allez faire un exercice avec ce que vous venez d'écrire sur votre partenaire. On a parlé du contexte du travail, n'est-ce pas? Et donc, vous allez offrir un travail à votre partenaire de la manière suivante. OK? D'abord, numéro un, vous allez offrir un travail sans les critères. Je vous donne un exemple. Sans les critères. Ça veut dire sans que vous venez d'écrire. Mettons par exemple, moi je disais que je voulais avoir un travail intéressant, que je dis que je veux travailler avec des gens bien, et que troisièmement, je veux un salaire convenable. OK, mettons c'est mes trois critères. OK? Alors, Karim, mettons tu es mon partenaire, tu m'offres un travail, mais sans les critères. Et on va le faire à la manière suivante. On va mentionner les critères en disant il n'y en a pas. Par exemple, on va dire, si je suis Karim et je vais parler à Shelley, je vais lui dire, hey Shelley, j'aimerais te parler d'un travail que j'aimerais que tu réfléchisses si oui ou non tu veux l'avoir. Et là, on le fait straight, sans aucune émotion. Et dans cette, et on ne dit pas ce que c'est le travail non plus. C'est un travail. Et Shelley, dans ce travail, je trouve, en fait, c'est pas très intéressant. Tu vas pas pouvoir travailler avec des gens bien. Et il n'y a pas vraiment de salaire convenable. Mais tu le fais straight, d'accord, sans aucune émotion. Pendant que vous parlez, vous allez regarder votre partenaire pour regarder des micro-comportements de réaction. C'est tout ce que vous allez faire. Lorsque vous êtes sur le côté récepteur, quand votre partenaire vous parle, vous allez juste remarquer ce qui se passe au niveau corporel, d'accord? C'est tout ce que vous avez à faire, passivement. Mais il est sûr que celui qui reçoit ne va pas être trop enthousiaste du premier job, n'est-ce pas? Donc on va lui dire, attends Shelley, j'ai un autre travail qui pourrait vous intéresser, qui pourrait t'intéresser. Et là, on fait le deuxième partie, et là, on va offrir un travail avec les critères. Donc, si c'est Karim qui est toujours mon partenaire, il va dire, Shelley, bon, je te parle d'un autre travail. Dans ce travail, il n'a encore aucune émotion dans sa voix, dans ses gestes, dans son visage. Je t'offre un travail et je pense que ça va être intéressant. Et tu vas pouvoir travailler avec des gens bien et qui a un salaire convenable. Donc, on dit lentement et à chaque fois qu'on parle, on observe. C'est pas la peine de le lire parce qu'on va manquer le spectacle. Alors, si tu fais, tu auras un travail intéressant, ensuite tu regardes, t'as complètement manqué le spectacle. C'est trop tard. Donc, vous regardez d'abord, mettez en tête, et vous la livrez. Mot à mot, exactement ce que la personne vous l'a livré. OK? Et côté récepteur, oh oui, deuxième job, quand vous l'offrez à votre partenaire, vous observez les micro-comportements différents de la première fois. Qu'est-ce qui a changé? Quand vous êtes sur le côté réception, côté récepteur, vous remarquez ce qui se passe dans votre corps qui est différent de la première fois. Après, vous changez. D'accord? Et on va parler de ce que vous avez observé. Alors, prenez, bon, 5 minutes chacun. Je vais vous dire quand il faut tourner. Allez-y. J'ai quelques questions encore impertinentes à vous poser, en commençant par ceux qui ont fait et en suivant par ceux qui ont reçu, d'accord? Revenant au premier exercice, lorsqu'il s'agissait d'offrir votre partenaire un travail sans ces critères, qu'est-ce que vous avez vu, qu'est-ce que vous avez observé quand vous avez offert le premier travail, par exemple? Oui?
Moi, j'ai observé que sa pupille se fixait, ses bras se serraient, ils étaient croisés, ils se serraient, et sa bouche s'est un peu tordue, elle frémissait.
Ok, merci. Autre chose que vous avez observé? Oui, Christiane?
Elle est devenue droite.
Donc, son dos était droite.
Elle est raidie. Le visage est tombé, et surtout, elle a pâli.
Elle a pâli, donc elle a changé même de couleur.
Ok, elle a changé de couleur.
Ok, intéressant. C'est des bonnes observations. C'est pas des interprétations, ce sont des observations. Ok, ce que je cherche, des interprétations, c'est qu'elle avait l'air pas heureux. Ça, c'est une interprétation. Moi, je veux savoir ce que vous avez vu qui vous a fait penser que d'autres observations.
Le regard allait dans tous les
sens. Ok.
J'avais l'impression que c'était comme une respiration qui allait se bloquer, il y a une rigidité.
Une rigidité de la respiration et des muscles contractés du visage. Ok, c'est bien. Autre chose, de différent. Les yeux comment?
Les yeux et sourcils, beaucoup comme ça. Les yeux vers le haut et les sourcils qui se soulevaient comme ça.
Ok, oui.
Il y a un regard
presque un peu dur, un peu...
Donc ça, c'est un regard fixe plutôt, fixe.
Oui, plutôt fixe.
Est-ce que tu as l'impression que ta partenaire te voyait ou te voyait pas?
Si elle me voyait, mais presque elle m'en voulait.
Ok, donc ça c'est une interprétation, mais c'est, oui, je comprends. Mais ce que tu voulais dire, c'est vraiment un regard très fixe, très pointu. Autre chose de différent.
J'ai vu un sourire
très forcé. Un sourire
très forcé.
Donc c'était pas forcé, c'est un peu interprétation, mais non, quand c'est forcé, c'est comment? Un peu rigide, crispé là. Ok. Donc un sourire peut-être avec les dents serrées, je sais pas.
Une nervosité comme des petits battements de paupières.
Les battements de paupières, ok. Autre chose de différent?
Au niveau du corps, ouais, niveau du corps, il y avait le corps qui, au fur et à mesure, se reculait.
Donc le corps qui se recule, ok.
Des épaules, il y avait un affaissement des épaules.
Donc l'épaule était vers le bas, les épaules étaient vers le bas.
Chaque fois, elle était
assise. Ouais. Ou peut-être la gravité est devenue plus lourde.
Ouais.
Parce que parfois, on a des journées de gravité lourde, n'est-ce pas? Vous essayez de vous lever de votre lit et vous vous rendez compte que, bon, aujourd'hui, c'est une journée de gravité lourde. Ça vous est déjà arrivé? Oui. Oui. On dit que la gravité est constante alors que c'est pas vrai, hein. Ok, c'est ça, donc les épaules baissées. Et autre chose?
Calibration, donc au niveau du visage, c'est évident. Donc il y avait le sourire qui à chaque fois se...
Bon, voilà. Donc les lèvres allaient vers le bas, c'est ça?
Oui.
Ok, intéressant.
Il y avait un changement de couleur du visage aussi.
Ok, est-ce qu'il y avait, au niveau des yeux, il y a quelque chose que je cherche en plus au quartier? Il y a un genre de regard où on sait que la personne ne voit rien.
C'est ça que je voulais dire, moi.
Je... Donc un regard...
Les yeux se rentraient, en fait. Mais...
D'accord, donc c'est le regard un peu flou.
Focus.
Oui, oui, voilà. Et on appelle ça, tu peux cogner, mais il n'y a personne à la maison. C'est une interprétation, mais quand même, oui, c'est un peu ce que je veux dire. Tu peux cogner, mais il n'y a personne à la maison. Voilà. En anglais, on dit, no one is home. Voilà. C'est parti.
Et Karim, le regard partait à droite, à gauche en haut.
Oh, d'accord, donc il y avait des flottements des yeux des deux côtés vers le haut. Ok.
Et au pire c'était, et au plus c'était.
Donc, au fur et à mesure que ça avançait, ou quand est-ce que c'était changé?
Oui, oui, au fur et à mesure que je disais, au plus c'était.
Il y avait plus de mouvement.
Il y avait plus de mouvement.
Ok. Comment savais-tu que c'est quelque chose de plus important qu'une autre chose?
Parce
à quoi le sais-tu?
Une qui s'ajoutait à l'autre, en fait. C'était pas forcément l'importance des mots, c'est.
C'était une chose, après il y avait un autre, comme si ça s'empilait.
Voilà, c'est ça.
En tout cas, c'est une hypothèse.
C'est une hypothèse.
Ok. Alors maintenant, on change de côté. Maintenant, on est sur le côté récepteur. Là, ton partenaire, il y a une dizaine de minutes, a pris la peine de te demander qu'est-ce que tu voulais dans un travail. Ensuite, elle t'offre un travail en disant que tu n'en auras pas. Et pendant que tu écoutais, qu'est-ce qui se passait au niveau corporel? Pour toi, Christine, qu'est-ce qui se passait?
Moi, je ne me sentais pas bien, mais ce que j'ai remarqué, c'est que je me suis trouvée au niveau du champ de vision, ça devenait...
Très, très étroit. Donc, le champ de vision s'est rétréci.
Ah, oui, c'était très, très étroit.
Et intéressant. Très étroit. Pour toi aussi, ça s'est arrivé? Ok. Autre réaction différente?
Envie de dire non immédiatement.
Tu avais envie de dire non immédiatement?
Je ne peux pas, moi.
Bah, j'ai une question à te poser, par exemple. Ah oui.
C'est une évidence.
Ok.
Elle n'a pas envie d'écouter.
Pas envie d'écouter. Ça, c'est une question que je voulais poser. Quand la personne a parlé, est-ce que c'était devenu difficile de l'entendre après? Qu'on voyait des lèvres bouger, mais il n'y avait rien qui rentrait? Ok, pour toi, c'était comme ça. Ok, d'autres réactions?
Interprétation.
Tu as fait une interprétation.
Karine me disait des mots, et moi je disais, bah, dis donc, ça va être vraiment intéressant.
Donc, tu avais un sarcasme, un dialogue de ce sarcastique à l'intérieur. Ok.
Un vide à l'intérieur.
Oui, voilà.
Un vide, c'est où le vide?
Comment?
C'était où le vide?
Là.
Donc, pour toi, c'était dans la poitrine. Pour toi, c'était dans la tête. Il y en a d'autres réactions? Toi, tu avais envie de partir. Françoise, toi, c'était là. Toi, c'était au niveau de l'estomac.
Moi aussi, et des frissons.
Et des frissons.
Comme presque des tremblements.
Et toi, tu as ressenti le colère. Ok.
Au niveau du plexus, j'ai l'impression que c'est comme un diaphragme d'appareil photo. À chaque fois que...
Elle s'est resserrée, c'est ça?
Resserrée, il y avait un mouvement de resserrement. Et puis, en même temps, c'était de plus en plus sombre.
Ok.
et envie de reculer.
Tu avais envie de reculer physiquement, ok. Plus fort.
Sentiment de colère, et je lui dis, va te faire plus.
D'accord. Alors la pauvre. Vraiment, le colère est sorti. Est-ce qu'il y a eu autre chose différent de ça? Votre réaction?
Il y a un seuil, au bout d'un certain temps, il y a un retournement et puis j'ai rigolé.
Ah oui, d'accord. Est-ce qu'il y en a d'autres qui ont rigolé au moins d'années? Oui. Comme si ce n'est pas sérieux. Ok, voilà. Voilà. Alors c'est un peu ça? Oui, oui. Oui, oui. Ok. Bon, on va passer à la deuxième étape. Et donc, côté donneur, deuxième exercice, vous avez à faire un travail avec les critères. Alors, qu'est-ce que vous avez observé chez votre partenaire qui était différent de la première fois? Différent.
Le sourire.
Donc, il y avait un sourire. De quel type de sourire?
Un grand sourire.
Un grand sourire. Ok, bon.
Le sourire qui allait avec les yeux.
Les yeux qui pétillent.
Les yeux qui pétillent, ok.
Une détente chez ma partenaire, une détente au niveau du visage.
Donc une détente musculaire, c'est ça?
Avec la période précédente où
il y avait une crispation. Ok. Donc les muscles se relâchaient.
Les muscles se relâchent.
Ok. Christiane.
Le visage qui s'est illuminé et elle a pris de la couleur au niveau des pommettes.
Donc les pommettes ont changé de couleur, devenu quelle couleur là?
Rouge.
Plus rouge alors que c'était pas à l'avant.
Donc le sourire et au fur et à mesure il est venu, il était très franc. Après, à la fin, et surtout, elle a acquiescé aussi avec la tête.
J'aimerais savoir à quel moment votre partenaire a hoché la tête.
À la deuxième et à la troisième, elle faisait sans arrêt.
Est-ce que tout le monde a vu un certain hochement de tête dans le... Ok, j'aimerais en faire un commentaire. Il s'avère que le hochement de tête est un signe universel de « ça m'appartient ». Dans des cultures différentes, on fait des hochements de tête différemment. Par exemple, aux Indes, on le fait de droite à gauche. Mais c'est un signe, oui, ça m'appartient. Ça me parle, c'est à moi. Et ça, c'est le signe universel de quoi vous êtes tombé sur le critère qui appartient à la personne. Au téléphone, on a un équivalent de l'hochement de tête. Et c'est quoi? Parce que je fais beaucoup de travail au téléphone. Je fais la plupart de mes coachings au téléphone, par exemple. Alors, c'est quoi l'équivalent de l'hochement de tête? C'est le Alors, écoutez bien là, parce qu'il y a des nuances. Si la personne vous dit ça veut dire quoi? Ça veut dire pas vraiment. Le really, mais le pas vraiment. En anglais, on dit t'es proche, mais t'auras pas de cigare. Parce que si t'es vraiment tapé juste, là, t'auras le cigare. Mais on dit t'es proche, mais pas de cigare. Ça veut dire c'est pas tout à fait ça. Ça me rappelle que quand mes enfants étaient petits et que je partais travailler ailleurs, j'appelais le babysitter pour lui demander comment ça va. Elle me disait ça. Et ça va bien.
Oh là là.
Et je suis à 3000 km, elle me dit ça. Alors j'ai compris quoi du coup? Oui, justement. Alors, c'est dans le ton du hochement de tête verbal au téléphone qu'on va pouvoir voir si vraiment c'est congruent ou c'est pas congruent. Est-ce que c'est un sourire ou un hochement de tête définitif? Par exemple, visuellement, si vous me regardez une seconde, un hochement de tête définitif est différent d'un mouvement, disons pour nous autres, légèrement de droite et de gauche, qui induit un peu de doute. Et c'est différent par chaque culture. Donc, il faut connaître la culture dans laquelle vous travaillez. Et il y a des cultures d'entreprise aussi que des cultures nationales et ethniques aussi. Donc, il y a des façons de faire par ici, par là. Donc, ça, c'est l'hochement de tête. Quoi d'autre vous avez pu observer?
À la fin, il a fait ça.
Oui, c'est frotter les mains. Bon. Autre chose?
Il y avait un signe d'association par le fait de s'approcher.
Donc, votre partenaire s'est approché, ok, avec des épaules. Ok, autre chose?
Oui, le visage s'est tourné, donc comme si elle écoutait, c'est-à-dire... Donc,
visage tourné pour mieux écouter. Donc, on a envoyé une oreille à l'écoute, ok.
Sourire, lumière, regard lumineux.
Ok. Donc, ok, bon, des...
À la fin.
Un soupir de enfin, ok. Alors, passant côté récepteur pour le deuxième travail, qu'est-ce que ça vous a fait? physiquement, émotionnellement, qui était différent la première fois.
Alors, champ de vision, moi qui s'étais la fille, parce que j'étais restreinte.
Ok, alors champ de vision.
Lumière et image, je faisais du classement.
Ah, qu'est-ce que tu as vu dans les images, par exemple?
Je me suis vue en situation...
Qui a fait ça, qui s'était déjà vu en train de faire ce deuxième job?
Ah,
oui. Tu as fait ça aussi, il y en a plusieurs? Ok, intéressant. Quoi d'autre? Qu'est-ce qui s'est passé la deuxième fois quand vous avez écouté...
De la respiration, on a senti que...
Donc tu as commencé à respirer? Tu avais arrêté la première fois, c'est ça? Bon, il ne faut pas te donner une mauvaise nouvelle alors. Il s'arrête tout de suite de respirer.
Champion du monde de l'apnée.
Ok. Quoi d'autre, toi?
La joie, excitation.
Tu l'as senti, la joie, l'excitation?
Comme un poids, en fait, qui partait.
Ah, qui a eu un poids qui s'est parti? Alors, il y en a plusieurs. Hein. Donc, vraiment... un poids qui est parti, mais toi aussi. Ok, autre chose?
Une grande détente.
Une grande détente.
Et naturellement.
Ok, autre chose? Question impertinente suivante. Combien d'entre vous auraient pris le deuxième job? Montre-moi les mains. Regardez. Oh, les trois quarts. Plus des trois quarts. Je vous rappelle, monsieur, dame, vous ne savez pas de quoi il s'agit. Combien il paye, où ça va être, avec qui et quelles sont les tâches et les responsabilités. Je vous signale. En plus, on vient de faire un exercice quand même hyper artificiel, n'est-ce pas? D'abord, on te pose la question sur ce que tu veux. On te dit que tu ne peux pas l'avoir. On dit, oh, ok, tu peux l'avoir. Et quand même, les trois quarts ont dit oui, je le veux. C'est puissant les mots, n'est-ce pas?
Ouais.
Très, très, très puissant. Alors, ce qui se passe normalement lorsqu'on veut convaincre quelqu'un d'autre de faire quelque chose, on utilise ses propres critères. Alors, je te dirais à toi, Tamar, il faudrait que tu prennes ce travail, il est intéressant. Mais c'est le critère de qui, voyons? Voyez? Alors que si on prenait le temps de poser à l'autre qu'est-ce qui est important pour lui ou pour elle, avant de faire le cas, avant de prouver que tu peux trouver quelque chose qui vaut la peine pour toi, on aura beaucoup plus de résultats. Et on saurait qu'est-ce que la personne veut. Mais alors là, attention. Quand je dis que moi je veux que mon travail soit intéressant, est-ce que vous savez ce que je veux dire? Vous n'avez pas la moindre idée. Parce que dans votre expérience, vous n'avez pas le dictionnaire d'expérience de mon vécu. Donc vous pouvez savoir que le mot intéressant, la phrase travailler avec des gens bien est quelque chose d'important pour moi, mais vous ne savez pas ce que ça veut dire. Et d'ailleurs, parfois c'est très difficile de savoir parce que tu peux dire à quelqu'un, Échalé, quelle est la définition du mot intéressant pour toi? Mais rendez-vous compte, plus que c'est important pour la personne, plus elle aura du mal à le définir comme si elle était un dictionnaire. Préférez-vous avoir une autre question que vous pouvez poser qui va permettre à la personne d'expliquer ce qu'elle entend derrière tout ça? Parce que qu'est-ce que tu veux dire par cela? Parfois, ça ne donnera pas des résultats. Donc, je propose une autre question à poser si vous voulez faire définir la personne, qu'elle définisse ses critères. Et c'est donnez-moi un exemple quand c'était intéressant. C'est un ancrage. Le mot est associé à ces événements, à ces situations, à ces intéressants. Alors, tu pourrais, par exemple, me dire, Shirley, pourrais-tu me citer un moment dans ta vie au travail où c'était intéressant? Et parce que tu as utilisé exactement mon mot, je pourrais très bien te le sortir. Et là, il faut faire très attention à sortir les mots exactement comme la personne vous a dit. Si vous changez, ça n'a pas le même effet. Parce que c'est sa façon de dire. Par exemple, si tu me dis, Shirley, as-tu un exemple d'un travail qui t'intéresse? C'est pas même vécu pour moi qu'un travail qui est intéressant. Donc, même s'il faut faire la gymnastique de syntaxe, il vaut mieux refléter exactement les mots tels que la personne vous a dit ça. Est-ce que vous avez pu observer chez votre partenaire aussi le fait que certaines phrases avaient plus d'impact physique que d'autres? Donc, elle avait une réaction négative la première fois plus grande que dans d'autres situations, ou la réaction positive dans le deuxième cas plus grande. C'est-à-dire qu'elle a fait des gestes ou des changements de couleur plus exagérés que d'autres. Parce que ça aussi est une indication du niveau d'importance que la personne a pour ce critère ou un autre. Donc, la personne tout le temps est en train de vous manifester quels sont les critères importants et moins importants par sa réaction physique. non-verbal. Et ça, on l'entend aussi au téléphone. Y a-t-il des questions, commentaires?
Non, moi, j'avais une remarque. Je me suis rendu compte que quand je proposais le travail...
Lequel? Le premier travail?
Le premier et après
le deuxième, ok.
Qui était intéressant. En fait, en tant que personne qui lui proposait, moi, j'étais dans un état désagréable au départ. Et par rapport à l'intégrité, justement, je me disais, mais je suis en train de me foutre d'elle, quoi, tout simplement. Et je me sentais complètement vers le bas. Et quand je proposais le deuxième, je me sentais comme ça, quoi.
Oui, oui. On ne peut pas ne pas être impliqué dans la communication, n'est-ce pas? On ne peut pas éviter d'être là. On ne peut pas être ailleurs, vraiment. On est là-dedans, c'est vrai.
C'est une question que tu n'as pas posée, mais quand moi j'ai proposé le job qui était le contraire, je n'étais pas à l'aise.
Voilà. Okay.
Je savais les critères de la personne, et le fait de proposer le contraire, j'avais moi-même une attitude.
Et c'est très bien d'avoir vécu ça, parce que vous savez maintenant que vous avez à l'intérieur de vous une cloche d'alarme qui vous dit que vous êtes pas bien avec ce que vous faites. Alors c'est bien.
Voilà.
D'avoir cette connaissance et de savoir comment ça se manifeste. Alors maintenant, vous savez exactement comment ça se manifeste à l'intérieur de vous-même. Donc, c'est un genre de alarme éthique. C'est utile d'avoir ça, n'est-ce pas?
Oui. Tout le monde a cette cloche d'alarme.
Je crois que tout le monde l'a. Alors, c'est pas tout le monde en tout temps qui fait attention à ça, parce que je suis prête à parier que chacun de nous a eu cette alarme et on a procédé quand même parce qu'on voulait avoir quelque chose. J'ai raison?
Oui.
Ok. Alors, mais au moins on l'a. Parce que je pense qu'on est programmé avec ça, les êtres humains, on a quand même des neurones et des modalités pour ce qui est juste, ce qui n'est pas juste. Et ça change avec l'âge, bien sûr. Parce que j'ai compris que mes enfants, lorsqu'ils étaient petits, ça engageait l'intérêt personnel avant que ça engageait qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est mauvais. Donc, tout est encore rendu à l'âge des adolescents. C'est revenu au premier stade, j'ai compris. Donc, mentir pour avoir ce qu'on voulait, c'est redevenu une habitude à l'âge de 15 ans. Commentaire individuel de par mon expérience personnelle, sans la recherche scientifique cette fois-ci. Voyons. Bien.
Okay. Juste une question par rapport à ce que vous avez dit sur la personne qui a dit... dans mon travail, je veux augmenter le chiffre d'affaires, en tout cas, exactement pile poil ce qu'il fallait dire. Donc, par rapport en fait à des réponses comme celle-ci, comment on peut à un moment donné faire en sorte d'avoir la bonne réponse?
De savoir quelle est la réponse.
La réponse.
Ok, quelle est la réponse qui appartient à la personne? Alors, c'est une très bonne question. Alors, je vais prendre maintenant l'occasion de vous présenter notre méthodologie scientifique. Comment on dit? C'est notre méthodologie en trois... Bon, donne-moi une minute. Ça vient. Notre méthode rigoureuse, empirique et scientifique. Ça vous intéresse? En deux étapes. Alors... écrivez ça, s'il vous plaît, parce que c'est quand même une science, on ne fait pas n'importe quoi, parce qu'il s'agit de travailler avec les êtres humains. Donc, on ne fait pas n'importe quoi. Donc, on fait notre méthode rigoureuse, empirique, parce que je peux bien avoir une idée, mais si je ne le teste pas, ça n'a aucune validité. Donc, c'est notre méthode rigoureuse, empirique et scientifique, bien sûr. Et on va le faire en deux étapes. Je réponds à la question de Rosie qui a dit, mais quelle est la méthode pour savoir si la personne vous sort tout et n'importe quoi ou si vraiment c'est les critères à lui. Mais pendant tout notre cours, on va utiliser notre méthode rigoureuse, empirique et scientifique. D'accord? En deux étapes. Donc, la première étape de notre méthode rigoureuse, empirique et scientifique, vous voyez, c'est un défi pour moi de le dire en français, donc je ne vais pas le répéter souvent. Voyons. Première étape, on devine. Mais c'est la méthode scientifique. Donc, première étape, deviner, n'est-ce pas? Bon, les scientifiques ont un autre mot pour deviner. Parce qu'ils sont un peu snobs, je dois dire, un peu élitistes, donc ils appellent ça pondre une hypothèse, n'est-ce pas? Mais on sait, ils devinent, ils n'ont pas le moindre idée, n'est-ce pas? Donc, deviner d'abord, et deuxièmement, tester. Donc ça, c'est notre méthode rigoureuse, empirique et scientifique. Deviner, tester, d'accord? tester. Alors, devinez, vous écrivez tout ce qui vous sort. Devinez, testez. Après, vous lui redonnez exactement. Donc, pour vous, et vous redonnez tout ce qu'il vient de vous dire et vous regardez la réaction. Tout ce qui est important aura les signes inconscients, non verbaux, tels que le hochement de tête congruent. Donc, tu fais un test avant, par exemple, ton nom est Bernadette. On est vendredi aujourd'hui.
Je crois, oui.
Ouais, ça, je suis pas certaine. On est quelque part dans les alentours d'Avignon.
Oui.
Alors, tu fais quelques tests comme ça, tu regardes les hochements de tête, ensuite tu répètes les critères et vous allez voir pour vous-même ce qui appartient à la personne, ce qui n'appartient pas. Donc, vous allez pouvoir deviner, ensuite vous tester. N'est-ce pas, Karim? Il paraît. On prend la pause? 15 minutes.